Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Bonjour, bonjour Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire aujourd'hui, vous nous entraînez dans l'Amérique espagnole des conquistadors.
Et oui, je te vois reine des quatre parties du monde. C'est donc le titre d'un grand roman historique d'Alexandra Lapierre qui vient de paraître chez Flammarion. Alors vous allez voir que l'héroïne dont on parle, Isabelle Barreto, a bel et bien existé, même si les livres d'histoire n'ont quasiment rien retenu d'elle. Et c'est le grand mérite d'Alexandra Lapierre que de l'avoir ressuscitée, car le parcours de cette femme est absolument unique. Alors, si vous voulez, je vais continuer, si vous voulez, Céline.
Allez-y, je vous en prie.
Il y a dans ce livre tout pour faire ce qu'on appelle un grand succès. Des expéditions, des mutineries, de la bravoure et des lâchetés, du sacrifice, des trahisons, des naufrages et des passions amoureuses. Et puis surtout, une de ces grandes héroïnes dont le machisme des anciens chroniqueurs avait maintenu aux oubliettes, avec aussi à l'arrière-plan ce cinquième continent océanien autour duquel on tourne sans le trouver. Vous allez voir que tout cela est fascinant.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Il y a les romans historiques et puis il y a les grands récits romancés. Dans la première catégorie, on va trouver une très abondante production, parfois brillante, parfois moins bonne, qui fait revivre les hommes et les femmes du passé sur fond d'événements plus ou moins connus. Mais ce que j'appelle les grands récits n'ont rien à voir avec cela. Ce sont des livres rares, marquants, fruits de longues recherches et d'une immersion complète dans l'histoire d'une époque ou d'un personnage. Le grand récit suppose avant toute chose la découverte d'une figure majeure et oubliée, dont il s'agit d'exhumer la mémoire. Il suppose aussi l'existence de puissants enjeux capables de sous-tendre l'action. Il suppose enfin le travail acharné minutieux d'un auteur de talent pendant des mois et même des années. Les grands récits sont rares. Ce sont des livres qu'on met de côté pour les lire à tête reposée, comme on dit, des ouvrages qui nous accompagnent pendant les jours exaltants et les nuits blanches qu'on peut passer l'été notamment, vous savez, et des ouvrages dont le style, dont l'atmosphère, les couleurs s'inscriront dans notre mémoire jusqu'à teinter un moment de notre vie. Eh bien, le roman dont nous allons parler aujourd'hui est de cela. La figure majeure, c'est cette navigatrice espagnole d'origine portugaise, née à Lima au Pérou, Isabelle Barreto. Dans quelques minutes, vous allez voir que son nom, qui pour l'instant sans doute ne vous dit pas grand-chose, vous sera devenu familier. Première femme amirale de l'histoire, épouse de Mendaña, qu'elle a secondé et soutenu dans ses expéditions à travers l'océan Pacifique et dans la découverte des îles Salomon et des îles Marquises, Isabelle, titrée Adelantada, on va voir ce que ça veut dire, et Gobernadora, on va voir également ce que tout ça signifie. Isabelle est un personnage incroyable qui a su s'imposer au sein d'une des sociétés les plus sexistes de l'histoire et ce sans rien céder de sa féminité. Les enjeux puissants, ce sont ceux des liens avec l'Orient et notamment la Chine et l'exploration frénétique d'un océan Pacifique où se devine un continent encore inconnu, le cinquième continent après lequel court en vain tous les conquérants de l'époque. Enfin, l'auteur, c'est Alexandra Lapierre, qui, après tout l'honneur des hommes, rappelez-vous sur le destin du fils de cet imam de Tchétchénie, après Artemisia, une enquête sur cette femme peintre dans la Rome baroque, est allée enquêter en Espagne et au Pérou sur les traces de cette conquistadora, si je puis dire, en robe et en vertu gadin. Tout à l'heure, à titre de récit, je me permettrai de vous lire un petit extrait de ce roman. Avant cela, j'aimerais que nous revenions sur sa genèse et que nous revivions le cheminement d'Alexandra Lapierre sur les traces d'Isabelle Barreto.
Un extrait de la Symphonie du Nouveau Monde, composé par Antonin Dvorak. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
l'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et au cœur de l'histoire aujourd'hui, nous parlons d'Isabelle Barreto, la conquistador, avec votre invité en studio, Franck Alexandre Lapierre, écrivain, auteur de romans, de nouvelles et de biographies, auteur de Je te vois, reine des quatre parties du monde aux éditions Flammarion.
Oui, bonjour Alexandre Lapierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et merci de nous faire connaître ce personnage que vraiment l'historiographie française, en tout cas, avait littéralement oublié. Je vais être tout à fait franc, moi je n'avais jamais entendu parler de cette Isabelle Barreto et je découvre en lisant votre livre qu'elle a joué un rôle absolument important. Ça n'est pas du tout un personnage de deuxième ordre. Alors, comme assez souvent, et ça, c'est, je trouve ça bien sûr fascinant, c'est en fouillant dans les archives que vous êtes tombé sur elle. Au départ, vous ne travailliez pas sur ce personnage-là.
Vous avez tout à fait raison, Franck. En fait, vous disiez tout à l'heure que vous ne connaissiez pas Isabelle Barreto, mais moi non plus.
Bon, ça me rassure.
En fait, je travaillais sur un autre personnage de la conquista espagnole du XVIe siècle, quand, totalement par hasard, je tombe sur les mots « amiral » au féminin. vous disiez tout à l'heure « adelantada », ça veut dire la femme qui va de l'avant.
L'entrepreneuse.
Oui, l'entrepreneuse. La gobernadora. Enfin bref, tous ces mots qui sont d'ordinaire des mots masculins au féminin.
On dit gobernador, ça on le voit partout.
Partout.
Mais gobernadora, c'est plus surprenant.
Plus évidemment. Surprenant. Donc ma réaction a été de me dire mais qui est-ce ? Enfin, surtout, il faut imaginer ce que c'est que ce 16e siècle espagnol au Pérou. Il n'existe pas de société plus machiste. Le mot amiral au féminin paraît tellement impossible parce que dans les milieux des navigateurs, déjà d'avoir une femme à bord d'un navire, c'est une très mauvaise idée parce que les femmes, comme les lapins, rongent les cordages et portent malheur. Donc qu'elle soit à la tête d'une flotte de quatre navires, ça paraissait impossible.
Alors quand vous aviez travaillé sur Artemisia Gentileschi, vous étiez installé à Rome. Là, vous êtes allé pour travailler sur la conquête espagnole et sur cette Amérique du Sud des premiers conquérants. Vous êtes allé, dans un premier temps, vous installer en Espagne. C'est-à-dire
oui.
Que vous ne faites pas les choses à moitié quand vous lancez un roman.
C'est-à-dire que j'ai toujours été intéressée par les grandes aventures humaines. Dans le cas d'Artemisia, c'était quand même l'histoire d'un artiste auquel on avait pris son œuvre pendant deux siècles en l'attribuant au Caravage, notamment.
Voilà.
Donc, l'idée de gens qui repoussent les limites des mondes connus était quelque chose qui m'a toujours beaucoup, beaucoup intéressée.
Et les limites assignées à leur sexe, en l'occurrence.
Hein,
dans ces deux cas, en tout cas.
Dans ces deux cas, ouais. Absolument. Donc, c'est vrai que j'avais envie de raconter une histoire qui touche à la conquista, mais pas à l'aspect guerrier de la conquête. Mais qu'est-ce qui se passe lors de la première génération? Ce moment où, au Pérou, au Mexique, s'érigent toutes ces cathédrales, toutes plus somptueuses les unes que les autres.
Alors vous dites à la première génération, mais ce qui est assez étonnant, c'est que vous découvrez très vite dans vos recherches que cette Isabelle Barreto, que les historiens espagnols dans les encyclopédies classiques ont tendance à faire naître en Espagne, en vérité est née là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique en fait.
Oui. Absolument. Et ça a été pour moi une catastrophe. Je m'étais installée à Madrid pour fouiller dans les archives de la Bibliothèque nationale et dans les archives de Séville qui détiennent tous les documents sur l'Amérique du Sud. Mais quand je me suis rendu compte que le personnage qui avait changé ma vie, en fait, il fallait qu'elle la change encore plus parce qu'on parlait maintenant de Lima, j'étais au départ absolument catastrophée.
Donc vous êtes allée à Lima?
Oui, j'ai été à Lima avec le rêve, évidemment, de retrouver sa trace. Car...
C'est une capitale qui est très en altitude, si ma mémoire est
bonne. Non, en fait, Lima...
Je confonds avec Bogota,
avec Cusco.
Moi. À Cusco.
Voilà. Mais Lima n'est pas en altitude, mais est très grise. Voilà. D'ailleurs, les Péruviens disent que les Indiens ont joué un tour de cochon aux Espagnols en leur montrant cet endroit, qui est l'endroit le plus gris, le plus plein de tremblements de terre, le plus dangereux pour l'établissement d'une capitale. Donc c'est la vengeance posthume des Incas. Mais Lima est une ville difficile, dans la mesure où c'est assez dangereux.
Actuellement, il y a
beaucoup de violence. Mais les gens sont formidables parce que, évidemment, quand vous venez faire une enquête, et de si loin, ils vous aident de toutes les façons possibles. Et j'ai pu avoir accès à des archives qu'il m'aurait été extrêmement compliqué de trouver si je n'avais pas été aidée par tous les conservateurs des bibliothèques locales.
J'imagine que les chercheurs qui viennent d'Europe pour faire des travaux sur, et des recherches sur un certain nombre de personnages péruviens sont assez rares, évidemment. Vous avez été agressée, hein, d'ailleurs, pendant
que
vous étiez à
Lima. Oui, en fait, il m'est arrivé une aventure un peu difficile, dans la mesure où j'étais obsédée à un moment de rentrer dans un couvent où Isabelle Barreto, dans un moment de sa vie, demande à être enterrée dans ce couvent, de nuit et secrètement. Et elle demande cela parce qu'elle a passé une retraite dans ce couvent. Et donc moi, je voulais voir ce couvent parce que je voulais voir si, en effet, elle avait obtenu d'être enterrée secrètement là. Et pourquoi secrètement ? Enfin, ce sont vraiment des enquêtes de détective, en fait. Et aujourd'hui, ce couvent est au milieu des Barrios Altos, qui est un quartier très, très dangereux. Et il est impossible d'y pénétrer si vous n'avez pas une sœur mourante parmi les religieuses. Donc mon travail a été de convaincre l'abbesse de me laisser franchir la clôture. Donc ça a été une incroyable aventure. Et à la sortie de cette visite, puisque j'ai réussi à visiter ce couvent, j'ai été en effet agressée avec les paquets que je portais, qui m'ont été immédiatement raflés et menacés avec des couteaux. C'est tout à fait normal. Quand je racontais ça aux amis, ils m'ont dit « tu as été agressée, mais tu n'as rien eu, ça va, donc pas de problème ».
Oui, là-bas, c'est monnaie
courante.
Tout
à fait normal.
Il faut payer de sa personne quand on fait de la recherche en Amérique du Sud. Alors, ce personnage, cette Isabelle Barreto, est donc née à la fin du XVIe siècle, en 1567, elle naît à Lima, et elle va avoir une vie qui, dans un premier temps, dans toute la première partie de sa vie, est relativement classique, si je puis dire.
Hein. Absolument. En fait, elle est élevée par un conquistador du Pérou. Son père s'appelle Nuño Rodríguez Barreto. Elle va avoir 11 frères et sœurs. Alors, première chose qui vous intrigue un tout petit peu, c'est que ses frères s'appellent tous Barreto et les sœurs s'appellent tous De Castro, du nom de la mère. Mm-hmm. C'est tout à fait normal.
C'est comme ça qu'on fait là-bas.
C'est comme ça qu'on fait là-bas et on peut choisir le nom du père ou de la mère. Dans le cas d'Isabelle, elle porte déjà le nom de ses frères. Elle s'appelle toujours Isabelle Barreto, du nom du père. Donc déjà, c'est un petit peu étonnant.
Comme si son père l'avait distingué un peu.
Voilà. Donc son père, ça c'était l'autre chose qui était tout à fait étonnante dans l'éducation de cette jeune fille, c'est que le père décide, dès l'enfance, de lui donner l'éducation d'un garçon. Alors ça veut dire quoi l'éducation d'un garçon ? Ça veut dire évidemment de pouvoir manier les armes, d'avoir quelques notions de mathématiques, quelques notions de géographie, et là commence l'aventure.
Et cette aventure, nous allons la vivre en votre compagnie, Alexandra Lapierre.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, aujourd'hui nous parlons d'Isabelle Barreto, la conquistador, Franck, avec votre invitée Alexandra Lapierre.
Alexandra Lapierre qui publie donc chez Flammarion, Je te vois reine des quatre parties du monde, sous-titré roman, parce qu'évidemment vous faites parler vos personnages, vous leur prêtez des émotions, on les suit dans leur pérégrination, mais évidemment tout ça sur des fondements et sur des bases historiques, il faut bien dire, hein, Alexandra Lapierre.
Oui, c'était moi ce qui m'intéressait. L'histoire d'Isabelle Barreto, qui va donc devenir capitaine de quatre galions, n'est intéressante que si elle est vraie.
Ben voilà. Mais vous savez que c'est le premier réflexe que j'ai eu en recevant votre livre. Je me suis dit, alors de quoi s'agit-il ? J'ai fait comme je fais toujours, j'en reçois tellement des livres, vous savez. Je l'ai feuilleté, j'ai dit, c'est une histoire invraisemblable. J'espère, Lorena est témoin, j'ai dit, j'espère que c'est vrai. Parce qu'évidemment, si c'est imaginaire, d'un seul coup, ça perd beaucoup de son intérêt. En l'occurrence, c'est tout à fait vrai. Alors, cette jeune fille, nous l'avons vue naître et grandir à Lima. Elle fait un premier mariage, elle est encore assez jeune.
Elle a 17-18 ans. Et elle va épouser Alvaro de Mendaña, qui est beaucoup plus âgé, qui a 25 ans de plus qu'elle.
Et qui lui est un navigateur connu.
Voilà,
alors,
hein. Et lui est un navigateur connu. D'ailleurs, son nom se trouve gravé au musée naval de Madrid, à côté de celui de Magellan et Christophe Colomb. Enfin, et c'est quelqu'un qui est très très célèbre. Il est très très célèbre, pourquoi ? Parce qu'il a été l'un des premiers à partir sur le Pacifique, en direction, tout droit, ce qui se faisait assez rarement quand même. Et il avait découvert les îles Salomon l'année même de la naissance d'Isabelle. Et il faut imaginer que ces Espagnols, maintenant, tiennent le continent américain, en tout cas sud-américain, et ils veulent pousser plus loin. Ils veulent partir sur le Pacifique, dont on sait très 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 peu de choses à ce moment-là. Il est vide.
Finalement, ce qui m'a frappé, parce que je ne connaissais pas toute cette partie-là de l'histoire de la colonisation espagnole, mais ce qu'ils essaient de faire avec une génération de retard, c'est accomplir le rêve de Christophe Colomb, mais non plus en partant de l'Europe, mais en partant de l'Amérique, tout simplement.
Absolument.
Hein, c'est on continue
ça.
Toujours plus à l'ouest.
Voilà.
Et on veut aller chercher quoi ? Eh bien, les richesses de l'Orient, bien entendu.
Sûr, bien sûr, absolument. Donc, c'est exactement ce que Alvaro de Mendaña, qui va devenir le premier mari d'Isabelle, a déjà tenté. Or, après cette tentative, il va tant essayer de repartir. C'est en ce sens que c'est presque la même histoire que celle de Magellan ou celle de Christophe Colomb, c'est-à-dire que ces gens...
Il faut trouver de l'argent pour monter une expédition, il faut recruter les personnes, choisir les navires, organiser tout ça, et puis on y va, à l'aventure toujours.
Absolument, parce qu'on ne sait pas où on va.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, on mesure facilement, avec les sextants, on mesure facilement les latitudes, mais pas les longitudes, c'est-à-dire qu'on voit à quelle hauteur on se trouve sur le globe, si je puis employer cette expression très impropre, mais on ne sait pas à quel niveau on se trouve
Absolument. Et c'est un immense problème de ne pas pouvoir évidemment calculer la longitude. Ça rend les calculs totalement, enfin, imprécis.
Et très aléatoire. Alors en plus, on n'a pas de carte très fiable. On sait qu'il y a quelques archipels ici et là. On se trompe une fois sur deux.
On croit arriver dans un archipel, on est sur un autre. Et c'est vrai que Alvaro de Mendaña va aller jusqu'en Espagne, on est quand même au Pérou, pour obtenir du roi la permission, parce que ça c'est aussi l'autre chose très très importante, c'est qu'il faut prendre possession de ces terres au nom de l'Espagne. Et dans le cas d'Alvaro de Mendaña, qui est différent de celui de Christophe Colomb et qui va être la source de tous les ennuis à venir, le roi ne finance pas l'expédition.
Et voilà,
changement radical, l'expédition va être détenue par... Enfin, le montage de l'expédition va être détenu par des particuliers. Et c'est là où Isabelle rentre en scène.
Parce qu'elle est dotée, hein, ça faut pas l'oublier. Elle est arrivée avec beaucoup d'argent, avec une dot en fait.
Absolument. Elle arrive avec une dot et elle va... épouser non seulement cet homme qu'elle va aimer, mais elle va épouser les rêves de cet homme. Parce que ce sont quand même des hommes chimériques dans un sens. Ils ne savent pas où ils partent, ils ne savent rien. Et elle va employer toute sa dot, toute sa fortune, et celle de son père, et celle de ses frères, pour monter l'expédition.
Alors, engouffre ses montagnes d'argent dans ce projet qui doit en rapporter d'autres.
Ah oui.
Parce que le but, évidemment, c'est de faire fortune.
Bien sûr. Et on évoquait les îles Salomon qu'avait trouvé Alvaro de Mendaña dans le premier voyage. Et pourquoi on les appelle les îles Salomon? Parce qu'on croit qu'elles sont couvertes d'or et que le roi Salomon rapportait
cet or. C'est une ancienne légende des mines du roi Salomon.
Absolument,
en fait,
c'est Ophir. Hein. Et le temple de Jérusalem aurait été doré grâce à l'or de ces îles. Donc, c'est presque une démarche biblique qu'ils sont en train d'accomplir.
Alors, cette expédition, elle ne se monte pas en un jour. Hein. Il va falloir des mois et des années pour la mettre au point. Nous avons dit qu'au moment de son mariage, elle a à peine 18 ans. Lui en a 45. Donc, au moment où ils partent, ils ont 10 ans de plus.
10 ans de plus. Lui a 55 ans et elle en a 28, enfin 27. Et c'est vrai qu'elle a organisé cette expédition avec lui. C'est leur bébé, si j'ose dire. Et cette expédition n'est pas une petite expédition, puisqu'il s'agit de 4 navires. Et c'est une
expédition... Des gros galions, oui. Il faut imaginer ces navires. Ces navires de la conquête espagnole, extraordinaire.
Et on évoquait la démarche biblique, c'est qu'ils vont emporter des animaux des deux sexes.
C'est l'arche de Noé.
C'est-à-dire montent dans ces navires des juments et des étalons. Et puis des taureaux et des vaches, des poules et des coqs. Enfin, c'est une immense expédition qui part sur le Pacifique.
On les imagine, ces navires qui s'éloignent maintenant sur l'horizon. Ils vont disparaître sur cet horizon marin. Où iront-ils? Jusqu'où iront-ils? C'est ce que nous voyons avec vous, Alexandra Lapierre, dans un instant.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et cet après-midi, vous nous entraînez, Franck, dans l'Amérique espagnole des conquistadors, avec votre invitée Alexandra Lapierre.
Et de cette navigatrice, hein, puisque pour ceux qui nous rejoindraient en cours, nous parlons aujourd'hui de cette femme dont on peut dire qu'elle est la seule femme à jamais avoir porté en Espagne le titre d'amiral. C'est assez extraordinaire. Alors, on n'en est pas encore là, évidemment. Pour l'instant, elle est avec son mari, qui est bien plus âgé qu'elle, bien plus expérimenté, qui a déjà découvert les îles Salomon. Les voilà partis vers l'ouest, avec nous. Ne l'oublions pas, l'idée de découvrir de nouvelles routes, bien entendu, mais aussi de mettre la main sur ce continent mystérieux dont on devine la présence sans l'avoir encore bien localisé. Ce cinquième continent dont on sait qu'il existe.
Ils cherchent l'Australie.
C'est ça,
en fait.
Voilà.
Et cette idée de l'existence de l'Australie repose bien sûr sur des rumeurs. Et puis aussi sur le fait qu'ils se disent que ces gens qu'ils découvrent sur les îles qu'ils vont rencontrer, il faut qu'ils viennent de quelque part.
Voilà.
Et donc l'obsession de l'Australie est au cœur de leur quête. Ils l'appellent la Terra Incognita, ou ils l'appellent, Mendaña, le mari d'Isabelle, l'appelle la terre de mon hypothèse.
Alors elle part, on peut dire avec toute la famille, hein, ça il faut le dire, oui. Parce que vous nous avez dit qu'elle était d'une famille nombreuse, mais là elle emmène ses frères avec elle, et même une sœur d'ailleurs.
Absolument.
Oui. Donc, dont elle se sent, vous le montrez très bien, dont elle se sent en quelque sorte responsable en fait.
Absolument. Hein. Les liens de famille d'Isabelle sont extrêmement forts. Et moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce personnage. C'est que oui, on va découvrir que c'est une grande dame et qu'elle n'est pas commode et qu'elle doit constamment faire face à la mort, à la maladie et tenir tête aux hommes qu'elle commande. Mais c'est aussi à la fois une grande amoureuse parce qu'elle a un rapport avec ce Mendania qui est d'une tendresse qui était très bouleversant. Elle est très très éprise de son époux et pleine d'admiration. Et alors que tout le monde le lâche, elle ne le lâchera absolument
même
jamais.
Même mort, elle refuse de le lâcher. Voilà. C'est le petit extrait que je vais lire tout à l'heure.
Et de ses frères et sœurs, puisqu'elle emmène avec elle trois de ses frères et une petite sœur. Et l'obsession d'Isabelle va être de les ramener vivants. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui est humainement tout à fait tridimensionnel, enfin avec plein de facettes qui la rendent très attachante.
Alors il faut dire que cette expédition, elle se passe mal, voire très mal. Ce sont des souffrances, des difficultés presque insurmontables.
Oui.
Et une forte dissension dans les chefs même de l'expédition. Il faut expliquer ça.
Bien sûr. En fait, le Mendania est le chef de l'expédition, mais on disait tout à l'heure qu'elle n'avait pas été financée par le roi. Donc il y a des investisseurs qui sont des investisseurs privés et qui donc ont droit au chapitre. Et ces gens-là sont d'une âpreté je ne ferai pas un dessin, d'une violence absolument terrible. Et évidemment, quand ils ne trouvent pas d'or au fil du chemin, la mutinerie gronde jusqu'à éclater. Il faut dire aussi que une des raisons pour lesquelles la mutinerie gronde, c'est que Mendania annonce l'arrivée au Salomon parce qu'ils arrivent devant un archipel absolument merveilleux. Et très vite, Mendania va se rendre compte qu'il ne comprend pas un mot de la langue des naturels.
Et donc, c'est pas ça.
Et qu'est-ce que ça va être? Eh bien, en fait, Isabelle et Mendania vont baptiser ces îles du nom de la meilleure amie d'Isabelle, qui était aussi la vice-reine du Pérou.
Qui était une marquise.
Et qui s'appelait la marquise de Mendoza. Et donc, les îles marquises d'aujourd'hui s'appellent de ce nom-là, car elles ont été baptisées par Isabelle et Mendania en souvenir des amis laissés au Pérou. Et c'est une des raisons de la mutinerie qui va gronder, c'est qu'évidemment, ils vont s'apercevoir en baptisant ces îles que ce ne sont pas les îles qu'ils cherchent.
Alors, pour avoir ici raconté les expéditions de Magellan, de Vasco de Gama, etc., on sait qu'il y a toujours des mutineries dans ce genre d'histoire. Et alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est servi sur ce chapitre en ce qui vous concerne. Hein.
Oui. Et alors, ce qui était bien, c'est que on a le détail historique de ces mutineries, puisqu'évidemment, elles vont être consignées dans le journal de bord. Elles vont être plus tard publiées par le chef pilote. Donc, au jour le jour, on a le récit de la dégradation.
Le chef pilote s'appelle Quiros. Alors, lui, il est terrible aussi. C'est le grand adversaire de celui auquel va devoir un jour s'affronter Isabelle.
Oui. Car Quiros, qui est le chef pilote de l'expédition, il y a le commandant, le capitaine, et puis il y a le chef pilote. Quiros est un marin aguerri. Et évidemment, il va haïr la présence d'une femme à bord, déjà pour commencer, et surtout quand cette femme, à un moment, va prendre le pouvoir, puisqu'il estime que le pouvoir lui revient de droit. Donc, entre ce grand navigateur et Isabelle, ça va être une véritable lutte à mort pour rester maître des galions.
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une femme à bord, mais c'est une femme qui continue à être femme. Elle s'habille en femme, elle reste telle. D'ailleurs, elle tient beaucoup aux marques de déférence qu'on peut lui donner, etc. Ce n'est pas une sorte de Jeanne d'Arc maritime, hein, si je puis dire. Elle est très féminine.
Oui, ça c'était aussi quelque chose que j'ai trouvé tout à fait inouï, de penser qu'elle se promenait avec des fraises et en vertu gadin sur les ponts de ses navires et que c'était possible, parce qu'il faut voir qu'il n'y avait pas d'eau pour laver blanchir les fraises, les dentelles. Or, Isabelle y tient pas pour des raisons de coquetterie, elle y tient parce que c'est le signe de sa légitimité. Elle est d'abord la femme du capitaine, mais quand elle va prendre le pouvoir, ce dont on parlera tout à l'heure, elle doit rester toujours impeccable. La seconde où elle commence à avoir une chemise un peu déchirée et à ressembler aux marins ou à ressembler aux autres épouses
aussitôt,
de marins, aussitôt, c'est fini.
Elle n'a pas droit à la moindre faiblesse. C'est ce qu'on voit très bien. Et elle est d'ailleurs elle est capable de prendre sur elle, hein, dans des proportions extraordinaires.
Oui,
elle a un très grand caractère. Enfin bon. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Mendania va mourir.
Oui.
Alors ça, c'est ce qui va tout changer c'est ce qui va faire basculer le destin d'Isabelle Barreto.
Absolument. Ce qui se passe, c'est que ils vont s'échouer sur des îles qui ne sont toujours pas à ce qu'ils croient les îles Salomon. Et nous évoquions les mutineries. Il va y avoir des exécutions. Il va y avoir des exécutions extrêmement sanglantes et des décapitations. Les Indiens qui attaquent le fort. Enfin, toutes les scènes de films qu'on a pu voir.
Les scènes de romans, c'est le cas de le dire.
Ces scènes de romans vont se dérouler dans la vie d'Isabelle jusqu'au moment où la tragédie totale la frappe, puisque Mendania, l'amour de sa vie, le capitaine, va mourir, l'abandonnant seul parmi ses hommes sur une île du Pacifique et parmi ses hommes qui sont les amis des mutins que Mendania vient de châtier.
Et c'est à elle qu'il donne le pouvoir, qu'il transmet son autorité en quelque sorte. Il lui redit ce qu'il lui avait dit au moment de sa nuit de noces. « Je te vois reine des quatre parties du monde ». C'est le titre que vous avez retenu pour ce roman, Alexandra Lapierre. Un roman qui vient de paraître chez Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et aujourd'hui, au cœur de l'histoire, on parle d'Isabelle Barreto, la conquistador, avec votre invitée Alexandra Lapierre, auteur du livre « Je te vois reine » des quatre parties du monde aux éditions Flammarion.
Dont voici d'ailleurs un extrait. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur moyen de vous donner envie de lire ce livre incroyable que d'en lire un extrait. Donc son mari, Mendania, est mort. Hein, et maintenant, la voilà à la tête, non pas des quatre galions qui étaient partis, parce qu'il y en a un qui a péri en route, mais des trois qui restent. La gobernadora ne prétendait pas dominer la connaissance des vents et des courants, nous dit Alexandra Lapierre, elle maîtrisait l'usage de toutes les voiles et des gréements. Sa curiosité de jadis et l'enseignement d'Alvaro de Mendania, 6 mois de navigation à ses côtés, l'avaient initiée aux choses de la mer. Elle savait désormais lire la boussole, manier l'astrolabe et le cadran. Elle pouvait calculer seule la route parcourue, la vitesse du navire et toutes les latitudes. Elle consultait chaque nuit ses capitaines, les obligeant à étudier leurs propres livres et à lui proposer de nouvelles routes maritimes. Elle exigeait de tous, de Quiros, celui dont on parlait tout à l'heure, hein, le chef pilote, de Corso et du propriétaire de la frégate, qu'ils consignent dans leurs journaux de bord les discussions qu'ils avaient avec elle et qu'ils lui adressent par écrit personnellement les conseils qu'ils lui prodiguaient de vive voix. Doña Elvira recopiait tous les documents que Doña Isabelle rangeait dans le coffre de l'Adelantado. Son gouvernement ne reposait que sur cela, le respect des lois et le culte de la hiérarchie. Isabelle Barreto était la première, Quiros le second. Le chef pilote avait demandé qu'elle le confirme officiellement dans son titre. Il voulait un papier paraffé de sa main, le maintenant à son poste de commandant de la flotte. Elle l'avait signé à la condition qu'il s'engage en retour à mener sa mission jusqu'au bout. Traduction, à la conduire, elle, jusqu'aux îles Salomon. Mieux, jusqu'à la découverte du cinquième continent, l'Australia incognita, leur but à l'un comme à l'autre. Elle stipulait en toutes lettres que même si les circonstances la forçaient pour l'heure à abandonner Santa Cruz, Quiros, après avoir atteint Manille, recruterait un nouvel équipage et repartirait avec elle. À charge pour elle de trouver les fonds permettant de payer les marins et de financer la suite de l'expédition. Elle s'occuperait en outre de les enrôler, etc. Vous voyez qu'elle est à la tête des opérations et c'est bien elle qui commande.
Pour l'heure, Isabelle choisissait d'accorder sa confiance au pilote de feu son mari. Le plan qu'elle avait défini était le suivant. Tenter d'abord de retrouver San Cristobal, l'île des Salomons que l'Adelantado avait assignée comme point de ralliement. Qui sait, peut-être Lope de Vega et la Santa Isabel les attendaient-ils tranquillement là-bas, auquel cas ils seraient sauvés. L'Almiranta comptait à son bord des canons et des armes, le gros de l'infanterie et deux prêtres. À défaut, continuer vers le nord-ouest et rejoindre les Philippines comme Quiros l'avait suggéré. Restait toutefois un ordre à donner, un ordre qui s'opposait à toutes les lois de la mer. Elle voulait que le cercueil d'Alvaro soit déterré et chargé à bord. Alvaro, c'est donc son défunt mari. Ce commandement-là provoquerait un tollé, Isabelle le savait. Aucun navire ne voyagerait avec un cercueil, mais elle demeurerait fidèle à l'homme qui incarnait la conquête. On quittait Santa Cruz, d'accord, mais on emmenait la dépouille de Mentania. Elle s'entêtait sur ce point. Le pouvoir absolu, c'était de lui qu'elle le tenait. C'était en son nom qu'elle le gardait. L'Adelantado poursuivrait donc le périple avec eux. N'en déplaise à Quiros, Alvado restait encore l'instigateur et le maître de cette expédition. Dernière corvée de bois, d'eau, de vivres, sous la férule de la gobernadora, même les malades, même les blessés se hâtaient et s'affairaient sur les ponts. La minuscule silhouette noire de Quiros allait d'un bateau à l'autre, partout les cordes étaient rongées, les voiles trouées, les mâts branlaient et les carènes prenaient l'eau, ils n'avaient pas une chance d'atteindre Manille. Mais qui savait ? Avec cette diablesse de femme dont la détermination à survivre paraissait aussi forte que sa tête était froide. En cette veille de départ, tous se trouvaient réunis dans la cabine de la gobernadora. Quiros délivrait ses instructions aux autres capitaines. « Nous naviguerons ouest-sud-ouest jusqu'à 11 degrés de latitude. Si nous ne rencontrons pas l'île de San Cristobal, alors nous naviguerons nord-nord-ouest en direction des Philippines. Nous y serons dans 2 mois. »«
2 mois !» s'écria Luis.
« Ou 3, avec l'aide de Dieu !»
Quiros ne regardait personne. Il ne s'adressait qu'à Isabelle. Les réactions d'autrui comptaient peu. L'échange, les jeux de pouvoir n'existaient désormais qu'entre deux et chacun savait que l'autre le rendrait responsable du moindre manquement. «
Attendez-vous au pire, » poursuivait Quiros. « Quand nous avons quitté Lima, on disait que les Japonais s'apprêtaient à envahir les Philippines. Peut-être ne trouverons-nous plus un seul Espagnol là-bas. »
« Vous avez une autre solution, seigneur Quiros ?»
« Aucune, madame. Je crains toutefois qu'il nous soit difficile de naviguer de conserve avec la frégate et la galiote. »«
Je vous prierai de m'appeler votre excellence. » Décidément, la reine de Saba était redevenue elle-même aussi impeccable, aussi impérieuse que possible.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Au cœur de l'histoire cet après-midi, on parle d'Isabelle Barreto, la conquistador, avec votre invité, Franck Alexandra Lapierre.
Alors elle est devenue cette fois la chef de l'expédition, hein, et ils vont y arriver aux Philippines finalement. Ils iront jusqu'à Manille, on ne sait pas comment, parce que c'était très improbable, Alexandra Lapierre.
C'était en effet très très improbable qu'Isabelle Barreto arrive sans carte, parce que le problème c'est qu'il n'allait pas aux Philippines, donc il n'avait pas de carte du tout, et que les Philippines comptent 7000 îles. Donc comment vous arrivez jusqu'à Manille, tenue par les Espagnols. Donc la route était une route inexplorée jusqu'à présent et d'une difficulté sans nom puisqu'ils arrivent dans un état effroyable. On a dit qu'ils étaient partis avec 4 navires. Il y en aura un qui arrivera, c'est celui d'Isabelle, puis un autre, mais les autres vont disparaître dans la tourmente et avec eux les hommes et les animaux.
Alors dans l'extrait que je viens de lire, on évoque la menace japonaise. Il y a aussi une menace chinoise hein, sur cet archipel, bien
absolument.
Entendu.
Alors là, pour moi, ça a été une incroyable découverte parce que en suivant Isabelle...
Bon, moi aussi, hein, je vous rassure. Non mais c'est fou ce qu'on découvre dans votre livre. Hein.
En suivant Isabelle jusqu'à Manille, je savais que Manille était tenue par les Espagnols, que Magellan avait découvert les Philippines, mais je n'avais pas du tout mesuré...
Et qu'il y était resté, d'ailleurs.
Et qu'il y était resté et qu'il en y était mort aussi.
Il était
aussi.
Mort, oui.
mais je n'avais pas du tout mesuré ce qu'était cette Manille tenue par les Espagnols, cette espèce d'avant-poste, en effet, avec la Chine, et débarque sur les Philippines toute une main-d'œuvre chinoise qui ne coûte absolument rien, qui copie tous les objets espagnols, alors qu'on dit quand on dit tous les objets espagnols, ils font des vierges, ils font des éventails, ils font des chaussures, ils font des habits, ils font des tissus, et ils font même les palais espagnols qui se dressent à Manille, et au point que il y a des gens qui, enfin tous les marchands espagnols se rebiffent en disant que cette manœuvre qui ne coûte rien, qui est mal payée, maltraitée,
ça rappelle un autre discours, hein.
Parce que c'était absolument extraordinaire de retrouver mais copie conforme ce qu'on peut entendre
tout
aujourd'hui.
Tout ce qu'on reproche à la Chine aujourd'hui, on lui reprochait à l'époque.
Et du coup, ils ont créé un service d'immigration. Ils ramenaient aux oncles les Chinois qui n'avaient pas de papier. Enfin, c'est tout à fait une administration absolument inouïe. Et Isabelle, arrivant quand même de Lima, personne n'arrivait du Pérou, est traitée comme une reine. On évoquait la reine de Saba. On l'appelle comme ça puisqu'elle arrive des îles Salomon et qu'elle était donc la maîtresse du roi Salomon. Et elle va s'installer et se refaire, entre guillemets, aux Philippines, où on peut se construire des fortunes inouïes en trafiquant avec les Chinois.
Elle y trouvera même son deuxième mari,
oui.
On peut dire.
Alors ça, c'était aussi la grande découverte, c'est que je lis dans les archives, puisque tout ça vient des archives, que 3 mois après son arrivée dans des circonstances si terribles, elle se remarie avec un garçon qui est comme son premier mari, le neveu du gouverneur, qui est parent du premier mari. Alors là aussi, j'ai été très étonnée parce que quand même, on est aux Philippines pour trouver un parent de son mari.
C'est incroyable, ces deux hommes sont si proches finalement.
Voilà.
Oui.
Et en fait, j'ai été en Espagne, alors visiter les maisons des deux maris qui existent encore, les villages des deux maris, et j'ai pris la mesure du fait qu'ils étaient totalement voisins en Galice et qu'ils appartenaient en effet à la même parentèle.
À la même famille à l'origine.
Absolument.
En fait. Alors, le premier mari avait 27 ans de plus qu'Isabelle. Le second, on a 3 de moins. C'est
oui.
un jeune homme de 25 ans,
oui.
en fait. Hein.
Et là aussi.
Fernand, enfin Hernando.
Hernando. Et c'est vrai que là aussi, j'ai été très, 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 très frappée par le fait que cette femme qui avait aimé à la folie son premier mari va s'éprendre, et réciproquement, parce que là, c'est vraiment un coup de foudre et une espèce de vraie passion entre deux êtres jeunes qui partagent, encore une fois, les mêmes rêves. Parce que ce qui m'a aussi beaucoup étonnée dans Hernando de Castro, donc qui va devenir son second mari, c'est que lui aussi est un grand navigateur, même très jeune. Il a fait déjà 4 fois naufrage, il a été prisonnier des Chinois, il a été dans les geôles de Macao. Donc, une espèce de passé d'aventurier absolument incroyable. Et lui, quand il rencontre cette femme qui a traversé les océans, je dois dire qu'il est complètement fasciné.
Ouais, évidemment, elle arrive auréolée. C'est plus du prestige à ce niveau-là.
Oui,
elle est presque, elle a une dimension presque surnaturelle.
Absolument.
Évidemment.
Et il tombe complètement fou amoureux d'elle. Et ils vont donc se marier. Alors là aussi, contre toutes les règles, puisque en principe, d'abord, une femme ne peut pas se marier. On la marie.
Oui, voilà.
Ses frères la donnent en mariage, son père la donne en mariage.
Là, c'est elle qui choisit son mari.
Là, elle choisit son mari. Et lui-même n'est pas majeur à ce moment-là, puisque normalement, il devrait avoir la permission de l'ordre auquel il appartient, puisqu'il est, il appartient à l'ordre des chevaliers de l'habit de Santiago. Donc c'est un grand aristocrate, j'oublie les détails, c'est qu'elle monte d'un cran,
oui, bien sûr,
et qu'elle rentre dans la grande aristocratie espagnole par ce mariage. Et donc ils font une espèce de deal, ils sont des associés à ce stade. Elle a le bateau et lui, il a la force,
le titre et le prestige.
Et ensemble, ils vont devenir les plus grands trafiquants espagnols avec la Chine.
Mais c'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est une chose d'être allé jusqu'aux Philippines et à Manille, mais ensuite, ils rentrent au Mexique, bien
oui.
entendu. Hein. Ça, c'est, ils vont établir une sorte de lien comme ça, qui
Absolument.
Est incroyable. Et ils rentrent cale-pleine, bien entendu, avec tous ces produits qui arrivent de Chine et d'Orient. Et on fait traverser à la cargaison, alors cette fois par voie de terre,
oui.
on lui fait traverser le Mexique pour reprendre la mer, mais de l'autre côté,
direction Séville.
C'est fascinant.
C'est absolument inouï de penser que toutes les soies et toutes les porcelaines, enfin tout ce qui va commencer à envahir les marchés européens, bientôt la cour de Louis XIV, enfin tout ça commence à ce moment-là, avec ce galion de Manille dont Hernando de Castro va devenir le capitaine. Le galion de Manille, c'était ce galion de Chine, en fait, qui...
Autre route de la soie,
voilà,
là, opposée aux précédentes.
Oui.
Alors, le comptoir où s'établit tout ce grand négoce avec l'Europe et avec Séville, c'est Acapulco,
oui,
dont Isabelle va devenir, en quelque sorte, la régente. C'est pas le titre, mais enfin, c'est vraiment ça.
Absolument. Elle va avoir des comptoirs à Acapulco et son mari, continuant à naviguer, il va l'émanciper légalement. Alors là encore, c'est une chose absolument incroyable parce que les femmes, d'un point de vue légal, dans toutes les sociétés notamment espagnoles, appartenaient stricto sensu aux hommes, c'est-à-dire à leur mari ou à leur père ou à leur frère. Là, il lui donne tout pouvoir pour agir en son nom et pour faire du commerce librement, comme si elle était un homme. Donc là aussi, c'est une démarche tout à fait particulière, où il lui-même prend des risques, parce que connaissant le caractère d'Isabelle,
oui,
c'est pas évident. Et vraiment, elle va... ils vont être ensemble. C'est vraiment l'histoire d'un couple. Là, elle a trouvé, ce sont deux chevaux qui galopent. Parce que lui est vraiment un entrepreneur, un aventurier, et ça marche.
Alors, on a vu les mutineries, on a vu les assauts d'un certain nombre d'indigènes. Il y a un naufrage qui intervient à ce moment-là. Il manquait plus qu'un naufrage dans cette histoire.
Vous évoquiez cette route de retour. La route de retour entre les Philippines,
et le Mexique.
Et le Mexique est une des routes les plus meurtrières et les plus dangereuses parce que les ouragans sont d'une violence inouïe. Et donc, les Espagnols perdent beaucoup, beaucoup de navires dans cette route du retour. Et plusieurs fois, Isabelle et Hernando passent à travers ces conditions abominables. On parle vraiment des plus grands ouragans qu'on puisse connaître. Et une fois, Hernando ne passe pas à travers et va perdre tous ses bateaux. Miracle, il n'en mourra pas. Lui va survivre, puisqu'il terminera sur une île et il sera récupéré par d'autres galions espagnols. Mais néanmoins, le trafic et la fortune est gravement menacée. Leur fortune est gravement menacée par la perte de ces bateaux. Parce qu'il faut imaginer que ces galions coûtent des fortunes.
Mais bien sûr, hein.
Ce sont des espèces de monstres.
Et leur cargaison,
etc. Absolument. Ça ruine les marchands de Manille pendant des années, un naufrage comme celui-là. Et du coup, Isabelle et Hernando vont reprendre des charges qui sont des charges
plus officielles en quelque sorte. Ils deviennent les représentants du roi d'Espagne sur place en vérité. Oui.
Absolument. Et lui va devenir le lieutenant général du royaume du Pérou, du vice-royaume du Pérou. Et elle va vouloir le... Alors ça aussi, c'était tout à fait étonnant dans le destin d'Isabelle, puisqu'elle va vouloir le préserver des obsessions de Mendaña et de ses propres obsessions, qui est celle de retourner aux îles Salomon et de remonter la même sorte de...
Ah ça c'est beau, hein. C'est là que l'histoire atteint une dimension quasi tragique en vérité.
Oui,
hein. C'est,
oui,
c'est le travail qu'elle fait sur elle-même. Là.
Oui, absolument. C'est vraiment quelqu'un qui change et qui se rend compte qu'au fond, elle a communiqué un virus à l'homme qu'elle aime, elle tente de l'en préserver et la tragédie là va frapper.
Et oui, et parce qu'elle avait... Alors, il faut dire que les enfants qu'elle avait tués avec son premier mari sont tous morts en bas âge. C'est assez difficile d'en suivre la trace. Hein,
oui, oui, parce qu'il meurt très tôt, donc il n'y a pas de papier.
Et là, elle s'apprête, on est en 1612, elle s'apprête à donner un enfant à Hernando. Et là, elle va mourir en couche.
Oui,
en fait,
mais dans ses bras. Ce qui est mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, néanmoins, a accompli un travail sur elle-même. Enfin, c'est vraiment un personnage en ce sens. C'est vraiment un personnage de roman, dans la mesure où elle commence comme une aventurière et comme une femme obsédée par sa propre liberté et par l'amour et par ce qu'elle va vivre, elle va accepter à un moment de s'enfermer dans un couvent pour expier les actes qu'elle a commis durant la traversée. C'est le couvent que nous évoquions tout à l'heure et dans lequel je tentais absolument de rentrer. Et elle va prendre une espèce de direction d'ampleur qui la rend vraiment reine des quatre parties du monde.
Je te vois reine des quatre parties du monde. C'est le magnifique roman d'Alexandra Lapierre chez Flammarion. Merci beaucoup d'être venue nous en parler.